Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bossouma.
La marche projetée par la Mouka et le regroupement politique Nogec aujourd'hui pour réclamer notamment la dépolitisation de la CENI a été dispersée là où des militants ont tenté de se regrouper. Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito ont quant à eux été embarqués de force par la police avant même le début de la marche dans la capitale. Constant Moutamba de la Nogec réclame la libération immédiate. Vous suivrez le bilan partiel de cette manifestation. La RTNC Bukavu et quelques radios privées réduites au silence pour plusieurs jours, voire des mois. C'est le résultat de l'incendie la nuit dernière à l'hôtel de la poste de Bukavu qui abritait ces médias. On parle d'importants dégâts matériels. L'origine du sinistre n'est pas encore connue. Et puis, l'invité de ce midi, le colonel Batabombi Apanza, secrétaire de la commission FARDC de la lutte contre les violences sexuelles. À l'issue de l'atelier sur les violences sexuelles clôturé hier à Bounia, il nous parle notamment des mécanismes de suivi mis en place pour la concrétisation du plan d'action de lutte contre ce mal au sein de l'armée en Ituri. Madame, Messieurs, bonjour. La police a embarqué de force Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito et des militants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène avant même le début de la marche. Cela s'est passé ce matin à la place Pascal dans la commune de Massina, dans l'est de la capitale Kinshasa. On apprend également qu'à la Tchangou, des militants qui ont bravé l'interdiction de la police ont été brutalisés et dispersés. Selon le bilan partiel dressé par les organisateurs de cette manifestation, plusieurs militants ont été interpellés, dont Prince et Pengue, cadre de la Mouka, et le siège de Nouvel Élan à Mbandaka saccagé. On écoute Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, parti d'Adolphe Mouzito. Il est au micro de Paul Matendo.
Au moment où nous parlons avec vous, nous pouvons établir un bilan partiel selon que M. Epengue est arrêté. Il y a Adrien Malenga et Michel Mangala ici sur place à Kinshasa. Mais au niveau des provinces, je peux vous citer les cas connus. À Bumba, par exemple, les militants, quatre militants de cadre d'ailleurs, de Nouvel Élan, ont été arrêtés. À Mbandaka, les militants arrêtés, le siège d'ailleurs de Nouvel Élan saccagé. On a cassé la porte. Donc jusque-là, c'est les bilans partiels que nous pouvons faire. Nous exigeons la libération pure et simple de nos cadres et militants. Parce que nous ne pouvons pas comprendre dans un pays où nous prônons la démocratie, où nous prônons la liberté, nous prônons les valeurs républicaines, que les gens se comportent comme si nous étions dans une jungle. Nous exigeons, ne demandons pas, mais nous exigeons la libération pure et simple de nos cadres.
Par ailleurs, une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre notre confrère Patient Ligodi d'actualité.cd et correspondant de RFI à Kinshasa, molesté et embarqué dans une voiture de la police. Selon le témoignage de l'un de ses collègues qui l'accompagnait, Patient Ligodi tentait plutôt d'arracher une interview avec Martin Fayoulou. À ce propos, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a protesté auprès du commissaire général de la police en demandant qu'une enquête soit diligentée et que des policiers coupables de brutalité envers notre confrère Patient Ligodi soient sévèrement punis. Du côté de Mbujimayi, la police a dispersé ce matin quelques militants de la Mouka qui s'étaient réunis pour la marche non loin de la place Mitembele dans la commune de la Kanchi. Sur le chemin de retour, certains ont essuyé des jets de pierre des personnes non autrement identifiées. Par ailleurs, le regroupement politique Nogec exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous ces militants arrêtés ce matin lors de la marche dans la partie est de la ville de Kinshasa. Constant Moutamba, qui le dit, ajoute qu'il a échappé à une arrestation en escaladant un mur. Toujours selon lui, la répression était forte pour une marche qui se voulait pacifique. La police, ajoute-t-il, a fait usage de l'eau chaude ainsi que des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Constant Moutamba, coordonnateur de Nogec et l'un des organisateurs de cette marche, joint par Blaise Shindani Kambala.
Bon, il faut dire que depuis 5 heures du matin, il y a eu un dispositif sécuritaire assez renforcé. Mais malgré cela, les militants de Nogec ainsi que ceux de la Mouka ont bravé la peur et ont pris d'assaut les rues de la capitale, notamment de la partie est de la ville. Malheureusement, il y a eu une répression forte qui a occasionné plusieurs arrestations ainsi que des blessés. Et Nogek compte une vingtaine de ces militants qui sont arrêtés en ce moment et pour qui nous exigeons une libération immédiate et inconditionnelle. Nous-mêmes, nous venons d'échapper de peu à l'arrestation. Nous avons dû escalader le mur parce que la violence a été forte. Et donc nous regrettons qu'une marche aussi pacifique soit réprimée de cette façon par un pouvoir qui se veut pourtant proclamer comme credo l'état de droit.
Le porte-parole de la police nationale congolaise que nous venons de joindre il y a quelques minutes promet de faire un point complet de cette manifestation à 14h heure de Kinshasa. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les députés et sénateurs assisteront d'ici là à l'ouverture officielle de la session parlementaire de septembre, une session essentiellement budgétaire. Conformément à l'article 115 de la Constitution, cette session qui s'ouvre va durer 3 mois et sera consacrée à l'examen au vote des projets de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2020 ainsi que celle des finances pour l'exercice 2021. Par ailleurs, plusieurs autres matières, dont la loi électorale ainsi que le contrôle parlementaire, pourraient faire l'objet de points inscrits à l'ordre du jour au cours de cette session. Des précisions avec Michel Kifindangoy.
En vertu de l'article 126 de la Constitution, le projet de loi des finances 2022 devra être déposé à l'Assemblée nationale au plus tard ce mercredi 15 septembre et sera examiné en priorité. Si jusqu'au 1er décembre le gouvernement Sama n'a pas déposé son budget, il sera réputé démissionnaire. D'après la loi de 2011 relative aux finances publiques, l'examen du budget est précédé par celui de la loi portant reddition des comptes à déposer aussi par le gouvernement. Bien qu'étant essentiellement budgétaire, cette session examinera d'autres matières, les arriérés de la session de mars, dont la loi électorale, l'installation de la CENI et le contrôle parlementaire. Notez que cette session s'ouvre sous une tension latente à l'Assemblée nationale. Plusieurs députés accusent le président Mbosso d'étouffer leurs initiatives, dont l'interpellation du ministre de PT-Intik sur la taxe téléphonique RAM. Une pétition visant sa déchéance serait même initiée, renseigne un député de l'opposition qui dénonce le flou dans l'achat des véhicules Hyundai destinés aux élus nationaux.
À Lubumbashi, notez le début ce mercredi des obsèques de l'ancien président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Antoine Gabriel Kyungwa Kumanza, après la levée du corps de la morgue de l'hôpital Afia Don Bosco en présence de plusieurs personnalités. C'est en sa résidence qu'il est exposé. D'après une source proche de son parti politique, le corps de l'illustre disparu retournera à la morgue ce soir avant qu'il soit transféré demain jeudi à l'esplanade du bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale. Le programme élaboré renseigne que c'est là que les hommages lui seront rendus, notamment par le président de la République. Il sera inhumé le même jeudi dans sa ferme située à plus de 40 km de Lubumbashi sur la route Kasenga où un mausolée lui a été construit. Je vous le disais en titre, au sud Kivu, un important incendie a consumé l'hôtel de la poste de Bukavu dans la nuit de mardi à aujourd'hui. En plus des services postaux, ce bâtiment situé dans la commune d'Ibanda abrite la RTNC Bukavu qui a perdu tout son matériel pour pouvoir émettre plusieurs services étatiques, notamment le centre de capture des passeports biométriques pour le sud Kivu et le nord Kivu. Radio Kapi s'est rendu sur le lieu de l'incendie ce matin, le constat de Cynthia Bachizi.
C'est un scénario de désolation que nous trouvons sur place. Nous marchons sur un sol cimenté, encore chaud et recouvert de cendres. Des gros câbles électriques torsadés traversant la cour intérieure de ce bâtiment rasent presque le sol, alors qu'une épaisse couche de fumée se dégage encore à quelques endroits. De ce complexe qui date de l'époque coloniale, seuls les murs extérieurs, peints en jaune mais désormais sombres, sont encore visibles. Outre les services postaux, ce bâtiment était devenu comme une galerie avec plusieurs locataires commerciaux. Beaucoup de ceux qui ont tout perdu se sentent aujourd'hui impuissants face à l'ampleur des dégâts. Témoignage.
Je suis informaticien. Je faisais d'impression sur tout format. J'avais des machines, des ordinateurs, des imprimantes et je n'ai rien récupéré.
L'entreprise Thalassa, connue par la production de bouteilles en plastique, les documents administratifs, les machines de production d'eau également calcinées. Aujourd'hui, nous allons renvoyer plus de 20 jeunes en chômage.
L'origine de cet incendie est encore inconnue. Les enquêtes sont en cours, assure le ministre provincial des Postes et Communications, trouvé trouvés sur le lieu. Précisons que la RTNC Bukavu est réduite au silence. Il faudra de gros moyens et dans l'urgence pour remettre ce média public en onde. Notez qu'en septembre 2011, un autre incendie avait déjà calciné partiellement l'hôtel de la poste de Bukavu. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Autre nouvelle, clôture hier à Lubumbashi des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Pendant 5 jours, les participants ont planché sur ce qui bloque la bonne marche du système éducatif. Cela avant de faire des projections dans le but de redorer le blason de ce secteur qui souffre de plusieurs maux. Plus de détails avec Jean Gandou.
Après 5 jours de travaux, les participants ont pris plus de 300 résolutions et recommandations. La plus grande est sans nul doute l'instauration du système licence master et doctorat, LMD en sigle. Pour le ministre des tutelles, cette option entre en vigueur dès la prochaine rentrée académique. Et cela demande des moyens. Que faire? Moïne Donzangi, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire.
Et nous avons résolu, en tant que gouvernement, de pouvoir augmenter les budgets de manière quantitative, mais aussi de rationaliser les ressources propres des établissements. Et ça, c'est important. Et nous avons dit qu'avec ce que nous avons comme moyen actuel, nous allons amorcer le processus et nous allons continuer à nous améliorer au fur et à mesure que nous avançons avec la réforme.
Pour le professeur Kambay Boacha, un des participants, cette notion de LMD doit être bien expliquée pour éviter toute mauvaise interprétation. Et parmi les recommandations, il y a la fermeture des instituts supérieurs et universitaires jugés non viables. Hors micro, certains professeurs se sont montrés sceptiques quant à la mise en pratique de toutes les résolutions et recommandations issues de ces assises. D'après eux, ce ne sont pas les textes qui manquent, mais plutôt une réelle volonté de les traduire en actes. Qu'à cela ne tienne, ils accordent le bénéfice de doute à l'actuel gouvernement, dont ils apprécient déjà les premiers indices. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Direction le Nord Kivu. La situation sécuritaire demeure instable dans le territoire de Masisi, déplore un député provincial élu de la zone. Alexis Baunga parle d'un activisme accru des groupes armés qui fait de plus en plus des victimes parmi les civils. Le porte-parole de la 34e région militaire, lui, indique que les forces engagées dans le cadre de l'état de siège poursuivent des opérations dans la région. Bernard Nyangi nous en parle.
Le député Alexis Baunga dit reconnaître les efforts des autorités de l'état de siège pour restaurer la sécurité dans ce territoire. Cependant, il se dit préoccupé par l'activisme accru des groupes armés qui fait de plus en plus de victimes parmi les civils, pendant que les villages vidés de leur population se multiplient aussi dans le Masisi.
Aujourd'hui, l'insécurité est concentrée, notamment dans les groupements Oufamandou premier, dans les Bachali Mokoto, dans les triangles Masisi Centre Nyabiondo et Kanja Mahanga. Dans la nuit du 13 au 14, M. Baloumé Bouchou a été assassiné à Massi Centre. Et la semaine antérieure, il y a eu 3 autres personnes qui ont été tuées. Et hier, dans la localité de Kalungu, on signale des affrontements. Nous sommes en train d'appeler au FRDC de tout faire pour protéger la population civile pendant ces affrontements.
Rappelons que M. Baloumé Bouchou, tué la nuit de lundi à hier mardi à Massi Centre, était le chef d'antenne de DDRC. Dans ce territoire, le porte-parole de la 34e région militaire affirme, lui, que les opérations planifiées dans le cadre de l'état de siège se poursuivent dans le Masisi. Le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike parle de 4 villages qui ont été repris des mains des APCLS hier mardi dans la localité de Kalungu, ouest du groupement Bachali Mokoto. Goma, Bernard Dengangi, Radio Kapi.
Entre-temps, les activités économiques ont repris normalement ce mercredi après 2 jours de ville morte décrétée par la société civile pour protester contre l'insécurité dans la ville de Beni au Nord Kivu. Toutes les maisons de commerce ont rouvert leurs portes comme à l'accoutumée. Selon le premier vice-président de la coordination urbaine de la société civile de Beni, d'autres actions pacifiques de protestation sont envisagées au cas où la situation sécuritaire ne s'améliore pas. Et en Ituri, les cas d'atteinte à la liberté de la presse se multiplient ces derniers temps. Il s'agit entre autres des cas de tuerie, d'intimidation et autres menaces de mort qui sont attribuées aux hommes armés et en uniforme. C'est le constat fait par les associations de défense des droits des journalistes, dont GED, Journaliste en danger, et l'UNPC Ituri, l'Union nationale de la presse au Congo. Ces structures demandent au gouvernement de protéger les journalistes contre ces graves violations qui visent le musellement de la presse. Isaac Rémoyopé.
Selon l'INPC Ituri, au moins 2 journalistes sont victimes d'intimidation et des menaces de mort chaque jour en province de l'Ituri dans l'exercice de leur métier. Le dernier cas, c'est celui d'un journaliste à Mungwalu qui est recherché par certains membres du groupe armé de la Codeco pour ses reportages sur les exactions de cette milice. Un acte dénoncé également par l'ONG Journaliste à Danger, GED, dans un communiqué de presse publié samedi dernier à Kinshasa. La présidente de l'INPC Ituri rapporte que certains professionnels des médias vivent dans la clandestinité. GED et l'INPC Ituri pointent du doigt les groupes armés, mais aussi certains militaires des FARDC. Ces structures demandent au gouvernement de protéger les professionnels des médias pour leur permettre de mieux assumer leur rôle de quatrième pouvoir. Christine Abedito.
Des cas de menaces, des morts, les journalistes reçoivent chaque jour. Aujourd'hui, nous pouvons même arriver à compter des cinquantaines de cas. C'est très grave.
Les porte-parole de l'armée en Ituri nie l'implication de l'armée dans les cas des restrictions de la liberté de la presse. Toutefois, le lieutenant Gilles Ngongo reconnaît certains cas rares d'interpellation des journalistes qui ne respectent pas les principes du journalisme pour les rappeler à l'ordre. Il accuse surtout les groupes armés en affirmant la détermination du gouvernement à protéger les journalistes. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les autorités françaises se disent ouvertement inquiètes des discussions entre Bamako et la société privée russe Wagner. Information révélée par l'agence de presse Reuters. Pour le gouvernement français, une implication de la société privée russe au Mali serait incompatible avec le maintien d'une force française. En Haïti, Bedford Claude, le chef du parquet de Port-au-Prince, a demandé hier au juge enquêtant sur l'assassinat du président Jovenel Moïse d'inculper le premier ministre. Selon lui, Ariel Henry aurait eu des appels téléphoniques avec l'un des principaux suspects du meurtre. Dans la foulée, il a été limogé par le chef du gouvernement.
L'invité.
Nous recevons le colonel Jean-Daniel Batabombi Akpanza, commandant adjoint du service de communication de l'armée et secrétaire de la commission FARDC de la lutte contre les violences sexuelles. Il est aussi l'un des formateurs de l'atelier de deux jours sur les violences sexuelles, atelier clôturé hier à Bounia avec la signature par des officiers et sous-officiers d'un acte d'engagement. Le colonel Jean-Daniel Batabombi s'entretient avec Martial Kiza.
Mon colonel Batabombi Apanza, bonjour.
Bonjour, monsieur le chevalier de la pluie.
Quelles sont les résolutions en sortie de cette formation sur les droits de l'homme, spécialement les violences faites aux femmes au sein de FARDC?
Oui, d'abord, je voudrais vous expliquer comment nous sommes arrivés ici. C'est par rapport à la mise en œuvre de la campagne Tolérance Zéro Immédiate contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres, laquelle campagne a été lancée par le commandant suprême le 19 juin 2020. Ici à Bounia. Et c'est dans ce cadre que nous avions été instruits par les ministres de la Défense pour organiser les activités relatives aux séminaires et aux sensibilisations des officiers des commandements ainsi que des magistrats militaires pour qu'ils arrivent mieux à traiter les dossiers de violences sexuelles. Vous pouvez retenir que nous avions commencé cette mission à Kisangani, nous avions formé une quarantaine d'officiers et ensuite nous sommes allés à Bukavu, nous en avions formé 53. Nous sommes revenus à Goma, nous avons vu former 50. Et ici à Bounia, nous sommes en train de former 43. Donc au total, ça fait à peu près 195. Et parmi les gens qui ont signé l'acte d'engagement, on peut dénombrer les officiers généraux. Les officiers généraux qui ont la charge de commandement de ces unités ont pris les actes d'engagement. Alors, ce qu'il faudra aussi retenir, c'est que cet acte d'engagement vaut un serment. Donc ça responsabilise davantage les commandants des unités à prévenir et à sanctionner sur le plan disciplinaire les présumés auteurs de violences sexuelles et de les déférer, les cas échéants, auprès des juridictions militaires pour que ces présumés auteurs soient sanctionnés si le cas est avéré.
Comment vous allez faire pour un suivi au sein des forces armées pour que cet acte d'engagement soit vraiment respecté par les forces armées?
Bon, vous savez, monsieur le journaliste, les officiers que vous voyez là au sein de notre armée, c'est l'obéissance et la discipline. À partir du moment où le commandant suprême a pris cette option, il a lancé cette campagne de tolérance zéro, tout le monde s'aligne. Donc, quel que soit le grade revêtu par les militaires, tout le monde s'aligne. Et d'abord, en tant que des officiers disciplinés, ils savent que ça vaut un serment. Donc, ils ont pris l'engagement solennel et ils vont mettre en pratique cet engagement. Alors, de deux, nous avons quand même des mécanismes qui sont mis en œuvre pour en assurer le suivi. Nous avons, par exemple, les systèmes de reportage. On doit chaque fois lire dans les rapports périodiques ou circonstanciés de chaque commandant, voir quelles sont les activités qui sont en train d'être menées en cette matière et voir également si jamais il y a eu un cas de violence sexuelle qui est survenu au de son unité, quelle est l'action que lui, en tant que commandant, il a prise. Donc ça doit être signalé au niveau de la hiérarchie. Et ensuite, au mois de novembre, si tout va bien, on reviendra sur le même itinéraire pour évaluer sur le terrain le niveau de l'application de cet acte d'engagement. À ce moment-là, on va recourir à plusieurs sources à la fois. Il y a l'autorité provinciale, il y a les organisations partenaires, il y a beaucoup de services auxquels nous pouvons recourir pour tirer des conclusions, voir l'impact de cet acte d'engagement. Mais je voudrais aussi vous informer que depuis que nous avions commencé à mettre en œuvre ce plan d'action depuis 2014, il y a plus de 643 commandants des unités qui ont signé des actes d'engagement. Et je vous dis honnêtement, parmi ces commandants qui ont signé des actes d'engagement, aucun parmi eux n'a été cité dans la commission des actes de violence sexuelle, ce qui est motif d'encouragement.
Alors, dénoncer, c'est une chose, et puis réprimer, c'est une autre chose. Vous pensez que ces officiers et sous-officiers qui ont signé ces actes d'engagement auront le courage aussi de déférer devant la justice un de leurs éléments qui pourrait tomber dans ces actes de violence sexuelle sur le terrain, surtout ceux-là qui sont dans des zones de conflit?
Il faut déjà, comme je vous ai dit, qu'on a commencé d'exister depuis 2015. Il y a des commandants qui sont en train de déférer sans problème. Le cas des présumés auteurs, ils collaborent très bien. C'est aussi ça le motif même de mettre en face le commandement militaire et la justice militaire pour qu'ils sachent que leur collaboration, leur niveau de collaboration, les collaborations entre le commandement militaire et la justice militaire, c'est un atout et chacun resta dans sa spécificité.
Mon colonel Batabombi Apanza, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité, le commandant adjoint du service de communication des FARDC, était avec Martial Kiza. C'est la fin de ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo, à la coordination de Noëlla Luzitu. Willem Lungamba était à la technique et devant ce micro, Belinda Bosuma. Retrouvez ce journal sur notre site www.radiocapi.net. Merci.